Voilà, alors maintenant c'est Agnès Lecan qui va te présenter son, ses hypothèses.
Ouais, je n'ai pas beaucoup d'hypothèses, mais on va voir après. Donc, le transfert se réfère-t-il à la différence sexuelle? Du point de vue de l'analyste, qui ne fonctionne pas à partir de son être, on pourrait dire qu'a priori, peu importe le sexe. Encore que, se rappelant les propos de Marc Strauss, on puisse dire le sexe de l'analyste une concession nécessaire à l'imaginaire de l'analysant. Et encore que, Lacan ait mentionné que les femmes sont les meilleures psychanalystes, les pires à l'occasion. Du point de vue de l'analysant, c'est surtout l'incidence des structures cliniques qui joue dans le transfert. Force est toutefois de constater que dans la névrose, le répartitoire des structures cliniques recouvre, grossièrement, l'autre division qui est celle du sexe ratio. Car l'hystérie, quoique différente de la position féminine, est de fait plus fréquente chez les femmes, et de la névrose obsessionnelle, Freud indiquait sa préférence visible pour le sexe masculin. Les femmes semblent plus portées que les hommes à se tourner vers la psychanalyse. Sans doute y participent leur intérêt fréquemment plus marqué pour la parole et les signes de reconnaissance qu'elles en attendent de l'autre. Est-ce déjà là un effet de la dimension patoute? De l'hystérique, à l'origine tout de même de la talking cure, on peut dire qu'elle présente sans doute quelque aspiration à un tel dispositif. À partir de la phase du transfert, qui le précise comme amour véritable, amour nouveau qui s'adresse au savoir, il devient loisible de l'articuler à la disparité fort repérable entre hommes et femmes en termes de rapport à l'amour. Les femmes sont réputées, sans usurpation, aimer l'amour. De la sorte, elles penchent là encore plus facilement vers le transfert, et entre sans doute plus facilement que les hommes en analyse. Par la suite, il y a en revanche rapidement quelques difficultés. L'amour du savoir, non seulement n'est pas le désir de savoir, mais peut encore durablement l'obstruer. Du coup, toujours au regard de l'amour, cette même disparité homme-femme, qui fait entrer les femmes plus facilement, peut, à l'autre bout de l'expérience, permettre aux hommes de se défaire plus vite du transfert. Dans le même sens, l'amour de transfert en tant que résistance s'articule au temps de fermeture de l'inconscient et de stagnation de la dialectique analytique et pourrait rendre la tâche analysante moins aisée côté femme. Autre obstacle lié à la position hystérique. Le passage du discours hystérique au discours analytique n'est pas forcément facile à obtenir et l'on peut rappeler Freud disant qu'il interprète contre Dora. Le fantasme hystérique A sur moi phi poinçon de A écrit l'hystérique appuyé sur son manque et non sur le savoir en place de vérité. La difficulté de la production d'un savoir mérite qu'on la souligne car il existe un noyau hystérique dans toute névrose. Voir la remarque de Freud sur l'obsession comme dialecte de l'hystérie, voir le fait que les quatre discours ne font place qu'au discours hystérique, et sans omettre l'hystérisation produite par la psychanalyse elle-même. Ceci va plutôt dans le sens de faire durer le transfert pour tous, mais surtout peut-être pour l'hystérie. Toutefois, l'obsessionnalité n'est pas en reste de ce trait de durabilité du transfert. Ne pourrait-on parler de la patience de l'obsessionnel qui attend la mort du maître plus qu'il ne le provoque, qui est toujours ailleurs que là où se court le risque, vise à ne rien perdre du signifiant et recule devant la perte qui détermine le lieu de la cause du désir. De sorte que finalement, le temps, qui est une composante essentielle du transfert, lui vient de façon convergente des deux structures. Et au plan de sa modalité, le transfert varie selon la stratégie du désir mis en jeu, donc selon la structure, entre le désir comme insatisfait et l'abdication. L'autre phase du transfert, celle de la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient, renvoie au non-rapport des sexes, soit un invariant de la névrose pour tout sexe donc. L'actualisation dans le transfert du rapport que le sujet a à son objet, dont l'analyste s'offre à faire semblant, permet l'approche de la cause asexuée du désir. La fin de l'analyse permet l'articulation de l'objet et de la castration. L'expérience analytique cesse de ne pas écrire le phallus et la production de S1 qui ne font pas chaîne fait de la jouissance phallique la jouissance du 1 ou des 1. Tous ces éléments me sont parfaitement valoirs pour les deux sexes, c'est-à-dire que ce qui s'analyse sous le régime du tout phallique peut bien être dit hors sexe. Le savoir analytique qui ne sait que sur l'un se pose savoir masculin, tel que Lacan en parle dans Les Non-Dupes. Mais de plus, en fin d'analyse, le rapport au réel est touché de la limite du disciple, puisque toute la jouissance ne passe pas au langage, et s'il y a un abord du S de grand abarré, il vaut là encore pour les deux sexes. Pourtant, s'il y a un enseignement de la psychanalyse, c'est tout autant la castration inévitable de qui parle que la différence dans le rapport des jouissances entre hommes et femmes, à quoi l'on peut ajouter la logique du patou de la fin. Alors, quid des femmes dans leur rapport à la fin de l'analyse du fait de leur position patoute? Auraient-elles de fait un accès facilité à la logique de fin d'analyse? Au fond, la question porte sur la signification que l'on accorde à S de grand abarré. S de grand abarré désigne plusieurs registres. La complétude du lieu du signifiant, d'où la vérité ne peut être que dite, car il manque toujours un signifiant dans l'ordre symbolique, et le savoir ne peut se boucler de façon toute. Est grand abarré désigne aussi la limitation du symbolique par la jouissance indicible. C'est son hétéronomie au langage qui renvoie à l'impasse de la formalisation d'où s'inscrit le réel. Enfin, sa division dans la jouissance partage la femme qui n'existe pas entre grand-fille et est grand abarré, ce qui fait de est grand abarré son partenaire dans la jouissance. Que de cette jouissance supplémentaire, les femmes ne puissent rien dire ni rien savoir, ne réduit pas l'expérience qu'elles peuvent en avoir. Elles les laissent dans le rapport de contiguïté où elles en sont enveloppées dans leur corps, qui vient désormais prendre valeur, lui aussi, de l'est de grand abarré. C'est du moins ainsi que j'ai lu Colette Soler. Moi aussi, mais dans un autre texte. Le fait pour les femmes d'incarner l'une des valeurs de l'est de grand abarré retentit assurément sur la fin d'analyse. Malgré l'identification aux symptômes, une certaine indécision quant à l'être persiste pour tous du fait... Une certaine indécision quant à l'être persiste pour tous du fait du est de grand abarré, et qu'aucune lettre produite ne puisse faire garantie pour le sujet. Il me semble que c'est comme cela que Nicolas Bindrien évoquait à Barcelone son recours à un signifiant à réinventer du fait de n'être que pour un temps et de n'être recours que faute de mieux. Toutefois, pour la patoute, cet effet d'indétermination est encore accentué de son rapport au S de grand abarré, son rapport propre au S de grand abarré. En ce sens, la fin d'analyse pourrait au contraire lui être plus difficile qu'à l'homme et la laisserait moins arrimée, faute de n'être pas assez dupe du phallus en raison du patou. Contrepoint possiblement favorable, la position pas tout inféodée à la jouissance phallique donne certainement aux femmes plus de liberté dans le rapport au fantasme, car tout hors langage que soit leur rapport à S de grand tabaret, il leur ménage une familiarité avec les dimensions d'inconsistance et d'altérité qui leur fait relativiser le 1 sur quoi elles ne misent pas tout. C'est en raison de cette liberté que les analystes femmes se distingueraient, pour le meilleur ou pour le pire, des psychanalystes hommes. Reste que le féminin, dans son rapport à l'autre, me paraît persister dans son opacité, ou que les analystes en recueillent ou en retransmettent peu le dire, et semble-t-il, jusque dans les passes, où s'accentue souvent plutôt la chute des identifications, le rapport à l'objet et bien sûr la complétude de l'autre. Cela, sans que cela ne vienne forcément ouvrir positivement sur le recueil d'un dire qui serait spécifiquement du féminin. Pas pour dire l'indicible, bien sûr, mais pour dire les effets du rapport à S de grand tabaret, tel qu'il pourrait se repérer dans une clinique renouvelée.